6 mètres 50.
Un mini, c'est un bateau de 6 mètres 50 qui est destiné pour faire de la course au large en solitaire.
Un documentaire de Domitille de Vevey.
On est à 200, un peu plus de 200 000 de l'arrivée, du coup normalement demain on arrive. Allez !
Bruno, le genre de Pokémon qu'on aime croiser. J'ai eu son bateau sur la ligne de départ au Sable d'Olonne, je me suis dit lui, j'ai envie qu'il gagne. Pourquoi ? Parce que son bateau est tout simplement incroyable. C'est le seul qui a osé, qui a vraiment fait un truc genre délire de A à Z. Bruno, on se revoit en Guadeloupe et j'espère que tu seras ben, genre premier quoi.
Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1.
Épisode 6,5. Épilogue.
Avant, il y avait un lac. Avant, il y avait un lac.
Précédemment, dans 6 mètres 50, Bruno a lancé toute son énergie à naviguer sur Callisto, le mini numéro 893, dans le but de rallier la Guadeloupe depuis l'île de La Palma aux Canaries. Après avoir souffert de la solitude, après avoir atteint la plénitude et des surfs à 17 nœuds, Bruno a commis une erreur qui a rendu la fin de sa course très pénible. Malgré ça, la fierté d'avoir accompli la traversée de l'Atlantique avec son bateau l'emporte sur tout le reste. Je m'appelle Domitille de Vevey et à mon tour, je vais conclure cette aventure. Quinze jours après avoir pris le départ, Bruno franchit la ligne avec seulement 3h23 de différence avec le vainqueur de l'épreuve, Luca Rosetti. La famille de Bruno a loué un petit bateau pour venir à sa rencontre sur l'eau et être là au moment de son arrivée.
La bouée !
La bouée, la bouée !
Sur l'embarcation, Charles, son ami, n'en retient pas ses larmes.
Quand il a franchi la ligne d'arrivée, c'était assez irréel parce que nous, on a suivi la course à fond. Enfin, moi, j'étais toutes les 6 heures, je regardais, enfin, j'ai suivi tout le truc comme un malade. Et du coup, d'être là-bas, clairement, j'ai pensé à rien, juste j'ai chialé. C'était trop émouvant de le voir arriver. Il y avait trop d'émotions.
Au classement général, il gagne la deuxième place dans la catégorie des bateaux en série. Après la solitude en mer, la bascule est totale pour Bruno.
Il y avait plein de gens qui étaient là pour lui. Il avait déjà tous ses potes de la mini qui arrivaient les uns après les autres. Il avait envie de passer du temps avec eux. Il y avait sa famille, il y avait sa copine, tout ça. Enfin, c'est sûr qu'il y a une effervescence, il y a une cohésion en plus, surtout j'ai un son dans la mini. Bah, tous, ils étaient hyper proches. C'était un gros groupe hyper soudé. Et à chaque arrivée, ils étaient tous là quasiment pour accueillir les nouveaux arrivants. Donc il y avait une sorte de cohésion hyper forte dans ce groupe qui était hyper touchante à voir. Et tu sentais qu'ils étaient à part, quoi. Il y avait un truc, il y avait les mini d'un côté, même s'ils étaient tous hyper humains, hyper ouverts, mais il y avait un truc qui partageaient que entre eux parce qu'il y a qu'eux qui pouvaient comprendre et ressentir ce qu'ils avaient vécu pendant toute cette course. Quoi.
S'il n'y a que 17 heures d'écart entre le premier et le dixième, l'étalement des arrivées, lui, s'étendra sur 10 jours.
L'arrivée en Guadeloupe, c'était plein de choses en fait. C'était à la fois un grand soulagement. Pendant 15 jours, on vit un peu sur le fil. Il y a toujours la peur de casser quelque chose de majeur. Et puis après, c'est vrai que moi, à l'arrivée, je ne savais pas que j'étais aussi proche de gagner la Transat. C'est sûr que ça récompense énormément de travail et je me sens légitime de faire ce résultat-là. Mais c'est vrai que c'est complètement au-delà de mes espérances initiales.
Après son arrivée, Bruno passe encore quelques semaines en Guadeloupe, puis rentre pour la remise des prix en décembre 2023. Quelques jours avant Noël, on se retrouve chez moi dans mon salon, Non seulement Bruno est monté sur le podium de la Mini Transat, mais en plus, grâce à l'ensemble de sa saison, il est devenu champion de France de course au large en Mini 650 en série. Une reconnaissance inattendue pour lui.
Franchement, c'est vraiment super, quoi, parce que c'est une vraie distinction à l'échelle fédérale. Alors, d'une part, ça m'a permis d'être invité à l'Olympia sur scène avec toutes les plus grandes stars de la course au large, qui sont mes idoles, comme Franck Camas, Armel Leclash, Sébastien Joss, Charlie Dalin. Enfin, c'était incroyable d'être à leur côté presque d'égal à égal. Mais au-delà de ça, ça peut me permettre, si je continue, de solliciter la fédération pour avoir le statut de sportif de haut niveau, pour pouvoir intégrer le centre d'entraînement fédéral. Et en plus, ça crédibilise un éventuel dossier de sponsoring, parce que c'est vrai que c'est un résultat, c'est crédible, quoi.
Mais avant de parler de son avenir dans la course au large, j'ai envie de revenir sur son sentiment d'être minuscule au milieu de l'océan.
Ces moments-là où je me suis ressenti comme dans une petite boîte au milieu de l'océan, c'était des moments où il y avait un peu du doute, un peu de la peur, un peu de l'excitation aussi, et on se sent quand même très vulnérable. C'est marrant parce que pendant la course, à un moment, on s'est capté avec Hugo, et en fait, il me dit « Est-ce que tu vois ces courses dans Star Wars, les petites motos, au fur et à mesure, il y en a un qui dégage, il y en a un qui explose, et il nous a un peu comparé à ça, quoi. On va hyper vite, mais sur un truc hyper instable, et un coup... on peut faire un vrac, partir au tas, tout péter. Et en fait, ça peut être éliminatoire ou non. Il y a vraiment un truc de dosage où on ne peut pas se permettre d'être à 100% de la vitesse du bateau tout le temps parce que ni le bateau ni l'humain ne tiendraient. Enfin, les skippers et les skippeuses, je pense qu'aucun de nous n'est capable de tenir un rythme de 100% sur 15 jours. Et le bateau non plus, en fait.
À ce moment-là, Bruno prend conscience qu'il va trop loin, mais c'est trop tard. Alors, petite précision, un grain, c'est quand le vent se renforce brutalement, souvent avec une pluie intense. Et un vrac, c'est quand le bateau devient incontrôlable, tout simplement, et se couche sur l'eau, ce qui peut casser pas mal de trucs.
Il y a un jour où, à la vacation météo, donc cette vacation quotidienne là, qu'on avait tous les jours à 15h, Annabelle, la directrice de course, nous donne un peu des nouvelles de la flotte. Et il y avait une dizaine ou une douzaine de bateaux qui reportaient des avaries, plus ou moins graves, plus ou moins handicapantes pour la vitesse. À ce moment-là, ça m'a fait un peu prendre conscience que je pense que je tenais un rythme un peu haut pour le bateau et que je prenais trop de risques. La preuve, c'est que sur la fin, je fais une erreur sous un grain parce que je suis bord à bord avec Hugo. On était la nuit vers 3h du matin. Ça faisait depuis 8h du matin la veille que j'étais en train de le rattraper puis de le doubler. Et du coup, je me dis non, mais là, tout cet effort de la journée, je veux le garder et je fais le choix de ne pas affaler le spi. Et en fait, je pète tout. J'ai une grosse perte de vitesse pendant 3-4 heures. Et à monter dans le mât et donc à prendre des risques pour moi pour réparer une partie de l'avarie. Et je repars et je finis la course sur un mode quand même nettement dégradé.
Je veux savoir ce qu'il retient, lui. Est-ce que ce sont les moments de galère ou les instants de grâce ou le contraste entre les deux?
Il y a plein de moments très durs qu'on oublie très vite après la course. On garde naturellement que les meilleurs moments. Mais moi, j'ai pas trop envie de les oublier, ces moments durs. Et aussi parce que la satisfaction sur cette course, c'est le niveau d'engagement que j'ai réussi à mettre tout au long de la course. Mon entraîneur, il m'a fait le meilleur conseil possible avant le départ. Il m'a dit, tu sais très bien naviguer, mais par contre, regarde pas ton engagement, quoi. Va au bout du truc, t'as des capacités de faire un beau résultat. Et la seule chose qui pourrait te pénaliser, c'est d'être trop mou, quoi, et de trop dormir et
d'avoir
la flemme. C'est clairement écrit dans mon bateau, j'ai pas la flemme. Et je pense que ça m'a vachement aidé à chaque fois que je me réveille d'une sieste. Peut-être ce que j'ai pas envie d'oublier, c'est l'océan Atlantique, quoi. C'est... En fait, il y a plein de choses qui m'ont surpris. Je pensais que la houle serait beaucoup plus longue, que le vent serait beaucoup plus régulier en force et en direction, et je trouvais que le vent était très fluctuant, très irrégulier et tout ça. Et j'ai eu un peu l'impression de découvrir cet océan-là. Et il y a eu en plus les grains, qui sont un phénomène sur l'Atlantique qui est très bien documenté dans les bouquins de météo, on en parle tout le temps et tout. C'est souvent la nuit ou au petit matin. c'est pas un truc mystique, hein, c'est juste lié aux conditions de réchauffement et de refroidissement de la masse d'air par rapport à la masse d'eau. Et donc, en fait, c'est assez impressionnant, quoi. On peut naviguer dans des conditions assez belles, assez tranquilles, etc. Puis là, on voit le grain arriver, le vent se renforce. Le grain nous passe dessus. Là, c'est des trompes d'eau qui nous tombent dessus et il n'y a plus de vent du tout. Et puis ensuite, le grain finit de nous rouler dessus. Et là, le vent revient hyper fort, souvent avec un changement d'angle de 45 degrés, voire plus. Donc c'est vrai que ça, c'est une expérience tant d'un point de vue humain que de voileux. Enfin, ça fait partie du beau dans cette course, la confrontation avec cet environnement-là. Cette expérience, c'est une expérience complète, humaine, technique, en mer. J'ai appris énormément de choses, j'ai appris à connaître un bateau. Il y a un truc qui me donne vachement de satisfaction, c'est le niveau qu'on peut acquérir en travaillant pendant 2 ans sur un même outil de travail. Et il y a un truc un peu de danse, quoi. Enfin, sur les manœuvres à la fin. Ça va jusqu'à quasiment, je dirais, la position des pieds, des mains, enfin, tout est ordonnancé. Je sentais une sorte de chorégraphie rodée. Ce qui a changé en moi, c'est, je pense, une meilleure connaissance de moi et bien sûr, mon niveau technique en voile est bien meilleur qu'au départ, quoi.
François Jambout, vainqueur de la Mini Transat en 2019 et coach de Bruno, ne cache pas sa fierté quand nous revenons ensemble sur son parcours.
On savait qu'il avait un profil pour faire quelque chose de bien. Globalement, il n'avait pas le bateau pour gagner non plus. Il n'avait pas un mauvais bateau, mais il n'avait pas le dernier bateau, dernier cri, etc. Et ça rend la performance encore plus belle, et je pense que c'est... Il faut vraiment le souligner. Mais voilà, le seul regret que j'ai avec Bruno, c'est qu'il est un peu mis de côté pour l'instant. J'espère qu'on le reverra rapidement sur les plans d'eau.
Mais Bruno, lui, en est certain. Ce podium n'était pas un début. C'était une fin.
C'est un sport de haut niveau, donc même si on n'est pas professionnel, on est obligé de garder un rythme d'entraînement, quoi. Et c'est pas un truc qui peut se faire à moitié. C'était un projet que j'ai pris très à cœur pendant 2 ans. Il y avait aussi une forme de fin et de temps limité. Et c'est pour ça, continuer dans la voile, c'est une professionnalisation. Trouver un sponsor, aller vers quand même des projets un peu plus gros que le mini. Et moi, au moment de cette fin de projet de mini, j'avais eu l'impression d'aller au bout de mon rêve et de mon idée de faire cette mini transat. Donc j'ai arrêté pour ça.
Car derrière l'idée d'une professionnalisation, il y a un secteur qui ne lui correspond pas.
La course au large, c'est un monde assez incroyable qui produit énormément de rêves. Mais en face de ça, le coût économique et écologique de ce projet-là... Je le trouve pas équilibré avec ce que ça produit socialement de bien pour la société. Et c'est un univers qui emploie du monde, mais aux frais de beaucoup de carbone et un coût écologique important.
Bruno n'est pas le seul dans sa décision d'arrêter la course au large. D'autres marins s'interrogent aussi. Parmi eux, Amaury Guérin.
On est plusieurs à se questionner sur l'impact écologique de la course au large. Il y a plusieurs skippers en mini 650 qui renoncent à faire la mini transat du fait de la problématique du retour cargo. Et donc, qui après avoir fait plusieurs saisons en mini 650, ne clôturent pas leur projet par une mini transat, mais vont plutôt s'orienter vers une course comme les Sables, les Açores, les Sables ou alors la Transgascogne.
Car une fois arrivés en Guadeloupe, les mini 650 ne reviennent pas par la mer. Trop fragiles, trop éprouvés. Le retour se fait en cargo, tandis que les skippers, eux, prennent l'avion. Et leur bilan carbone s'alourdit en conséquence. Amaury Guérin est membre de l'association La Vague, fondée en 2020 pour interroger les pratiques de la course au large et inventer de nouveaux récits.
La course au large, elle a cette image de sport écologique, parce qu'on est poussé par le vent. Mais c'est vrai qu'au-delà de cette image, la réalité est beaucoup moins glorieuse. Je pense qu'il y a vraiment 3 grandes catégories d'impact. Les premiers, c'est bien sûr le bilan carbone qu'on peut dégager avec nos activités. Ça inclut la construction du bateau, le déplacement de l'équipe pour les plus grosses équipes, les réparations du bateau, l'achat de nouvelles voiles, de matériel, etc. Le deuxième impact, c'est celui qui est lié aux collisions avec la faune marine, puisque plus le bateau est gros, plus il va ratisser large dans l'eau et plus il va être rapide. Et donc, moins les mammifères marins vont pouvoir facilement éviter le bateau et le voir venir. Et donc, ça fait des collisions qui, la plupart du temps, il faut savoir qu'elles peuvent être dramatiques pour les cétacés, puisque c'est des animaux qui sont à tendance hémophile, donc ça veut dire qu'ils ont du mal à cicatriser, et donc une collision violente signifie pour eux probablement la mort ou alors un handicap très important. Le dernier impact, je pense que c'est aussi au niveau des imaginaires que l'on va porter avec notre sport. Il y a plusieurs manières de faire rêver les gens qui restent à terre. Selon la manière dont on les fait rêver, on a aussi un impact, et ça, il faut en avoir conscience. Si on fait passer le message que réussir en course au large, c'est avoir forcément le plus gros bateau, le dernier bateau neuf, et bien forcément, les personnes qui nous suivent vont appliquer ces critères de réussite au quotidien. Ça peut expliquer aussi pourquoi, pour réussir aujourd'hui, il faut avoir la plus grosse voiture, le dernier iPhone, etc. Et donc ça, c'est aussi un impact qu'on a à travers nos pratiques, de toujours aller vers plus neuf, plus grand, plus gros, plus rapide. Et donc de faire passer ces idées-là, je pense que ça a aussi un impact sur les comportements du quotidien d'autres personnes.
Dans la Mini Transat, l'impact reste plus limité. Les bateaux sont petits et vivent plusieurs saisons, plusieurs courses. Callisto, par exemple, en est déjà à sa cinquième propriétaire. Mais le problème du retour cargo et de l'avion pour les skippers reste entier. Un problème pour lequel l'association de la classe Mini cherche activement des solutions. De son côté, Amaury Guérin a prévu de ramener son bateau depuis la Guadeloupe jusqu'à l'Hexagone, uniquement à la voile, après l'hiver 2025. Pour lui, la course au large de demain implique d'accepter de ralentir.
Ça peut paraître en opposition avec la notion de compétition, mais je pense que justement, le fait d'accepter de ralentir en course au large, ça peut permettre d'avoir une compétition plus forte. Puisque si tout le monde est à la même école, si on a tous les mêmes bateaux qui sont peut-être un peu plus lents, ça permet d'avoir une compétition sur l'eau qui soit tout aussi forte, voire même encore plus intéressante.
Ralentir, c'est ce qu'a fait Bruno. Au fond de lui, ce qui reste, c'est une reconnaissance profonde de tout ce que cette aventure lui a offert.
La Mini Transat, c'est un projet que chacun, chacune va prendre différemment. On est autant de projets que de personnes et on va tous et toutes mener notre projet vers un point différent. Par contre, c'est dans tous les cas quelque chose de très engagé et qui va sûrement changer un peu nos vies. Et forcément toujours en bien, parce que c'est beaucoup de dépassements, c'est beaucoup d'émotions, et ça permet forcément de mieux se connaître. Et ça, c'est hyper fort, et je l'ai vu chez tout le monde. Et donc, il ne faut surtout pas hésiter à essayer de monter des projets de mini-transat, parce que c'est vraiment un support en mer génial, quoi.
Il navigue toujours, mais loin des transats. Ou alors sur un transat de jardin. Avec ses vieux copains, il a retrouvé les régates saucissons, comme dit Charles. Leur terrain de jeu, c'est Droupy, un muscadet décoré de chatons cosmiques.
C'est un plaisir de naviguer avec lui et c'est marrant, on a refait du coup une régate après sa mini et finalement il y avait presque une... lui il se mettait une pression de foot qui revenait tu vois en mode mini, donc on s'est dit bon bah là on va te donner le poste, enfin il avait toutes les responsabilités à bord tu vois, c'était mais du coup c'était un gros kiff, on était avec que les meilleurs potes avec qui on navigue, avec Vincent, avec Jean et lui c'était vraiment l'éclate ouais.
Finalement cette histoire c'est une histoire d'amitié.
Bruce, un pote d'enfance avec qui on fait du bateau, on a monté une brasserie ensemble, on a continué à faire du bateau ensemble, et là, du coup, de sortir cette bière en reprenant la déco du bateau, ça conclut bien, en tout cas, toute cette aventure brassicole et de voile avec un de mes meilleurs amis.
Callisto a changé de main, Bruno a changé de rythme, et moi aussi, j'ai changé. Suivre Bruno m'a fait mesurer ce que veut dire aller au bout d'un projet. Avec ses exigences, ses fragilités, ses renoncements. Ce podcast en est la preuve vivante. 6,50 m devient aujourd'hui un souvenir sonore pour lui comme pour moi, tissé de nos liens avec ce qui nous rend vivants. Notre passion, lui pour la mer, moi pour la radio. Quant à l'océan, il continue encore et toujours d'appeler les marins épris de liberté. François Jambout.
On a un sport qui est très particulier, c'est pas comme dans le football où à 30 ans, t'es déjà vieux et si tu rates 2 années de sport dans ta vie, c'est une catastrophe. La voile, c'est différent. La voile, déjà, c'est pas qu'un sport professionnel et on peut naviguer jusqu'à très tard, même à haut niveau. Bruno, c'est un mec qui monte des projets et qui fait les choses à fond. Je serais très surpris qu'on le revoie pas sur un bateau un jour.
Ça sera le mot de la fin.
Voilà. Écriture, réalisation, montage... Domitil de Vevey. Mixage et soutien inconditionnel, Fabien Bourlier. Musique, Chamaille. Photographie, Vincent Olivo. Création visuelle, Julia Luisa. 6m50 est une histoire originale soutenue par la brasserie artisanale Aérofab. Ensemble, nous avons créé une bière dont l'étiquette reprend le visuel imaginé par Julia Luisa pour Callisto. Vous avez aimé ce podcast ? Parlez-en autour de vous. Merci.
Parfait, elle est bonne celle-là.